RMC, 14h-18h, Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Bonjour à tous, la 12e étape du Tour de France aujourd'hui entre Montpellier et le Mont Ventoux. Enfin, le Mont Ventoux, pas tout à fait, on va vous expliquer tout dans quelques instants. Vous avez écouté sans doute Éric Brunet il y a quelques instants. Vous n'êtes donc pas sans savoir que l'étape ne s'achèvera pas tout à l'heure au sommet du Mont Ventoux, mais un peu plus bas, au Chalet Reynard, 6 km plus bas que l'ascension, donc que le sommet de ce Mont Ventoux, le géant de Provence qui aujourd'hui est soufflé par le Mistral avec des rafales qui avoisinent les 110 km/h, ou qui vont le faire en tous les cas dans les minutes qui viennent, parce que on nous annonce que le vent est en train de forcir, et déjà qu'il est assez important ici à Vaison-la-Romaine, parce que nous ne sommes pas aujourd'hui sur la ligne d'arrivée. Il faut le savoir, les conditions météo ont empêché tout le barnum du Tour de France de monter jusqu'en haut. Nous sommes donc à Vaison-la-Romaine dans la plaine, où le vent souffle tout de même ici à 80 km/h. On va vous faire vivre cette étape avec, on l'espère, la moto RMC qui pour l'instant est prise un peu dans le Mistral. Je ne sais pas si Georges nous entend, on va lui faire un petit coucou quand même. Salut Georges.
Salut Christophe et bonjour à tous. Oui, les conditions sont forcément un peu particulières. Ici, on est rentré dans le département des Bouches-du-Rhône depuis quelques kilomètres. On a le géant de Provence qui est au loin et qu'on a eu en vue, en tous les cas, il y a quelques minutes, le Mont Ventoux. Le vent souffle déjà très fort. Un vent de côté gauche. Là, on voit les drapeaux qui s'agitent dans tous les sens, et le vent qui devrait encore s'intensifier à mesure que l'on se rapproche du Mont Ventoux. Tout à l'heure, on nous annonce 80 km. Heure de vent de face au pied pour la montée, donc vers le Chalet Reynard. On espère qu'on va réussir à avancer quand même hein, avec ce vent de face, mais ça devrait le faire a priori.
Ah oui, non, mais tu vois, avec Marc, il prend bien le vent en plus, Marco, hein, donc je pense que ça va. Vous allez avoir du mal à monter là-haut.
Je suis bien protégé.
Donc, moi, t'es bien protégé. Tu vas pas sentir le Mistral aujourd'hui. Très bien. Cyril Guimard.
Tout seul au volant d'un scooter, je m'envolerai.
Oui, bah, tu sais que certains veulent, justement, tu nous en parleras peut-être tout à l'heure, certains ont émis l'idée de remplacer les motos par un petit scooter. Je vois bien Marco au guidon d'un scooter 50 cm3. Il serait magnifique, il aurait les pieds qui toucheraient par terre. Ils sont là également à mes côtés, Cyril Guimard qui a mis son blouson des sports d'hiver. Salut Cyril.
Oui, bonjour à tous. Oui, bah c'est vrai que ça ressemble un peu à l'hiver en montagne, la neige en moins, quoi.
Ouais.
Mais le vent en plus.
Le vent en plus. Et on nous annonce aussi des températures assez fraîches quand même au sommet. Bon, ici, ça va. Il fait pas non plus, c'est pas non plus les grandes chaleurs, hein. Monsieur Pinot, bonjour. Comment ça va, monsieur Jérôme? Vous allez bien?
Eh bien, écoutez, ça va très bien.
Je vous ai vu
très
à la télé ce matin chez Jean-Jacques Bourdin. Vous étiez magnifique, hein.
Oui.
À 7h du matin, je pensais pas.
C'est mon heure, c'est mon heure. Je rentrais du footing.
D'accord.
Je rentrais de courir et j'ai fait un petit 10 km. Départ 5h, retour 5h40.
Très bien. Rasé de près, impeccable. Non,
franchement, toujours, franchement. Pour vous Christophe, toujours.
Ah non, mais c'était pour Jean-Jacques.
Non, c'était pas pour Jean-Jacques.
Tu m'as fait des infidélités. Jérôme donc avec nous. Et puis Fred, évidemment, il est là. Lui aussi a mis son blouson cet après-midi pour commenter cette étape. Ça va Fred?
Oui, et dire qu'on est dans la plaine, on n'imagine même pas à quel point il fait froid là-haut. On parle de 6 degrés seulement au Chalet Reynard.
6 degrés au Chalet Reynard.
0 degrés.
Et des températures ressenties beaucoup plus basses, hein,
oui.
En négatif.
On parle de moins 4 là-haut. Au sommet à 1912 mètres. Vraiment aujourd'hui, heureusement que la décision a été prise de raccourcir donc l'ascension finale du Mont Ventoux, ascension amputée, on l'a dit, de 6 km. On est bien mieux en bas, nous, dans le Mistral.
Donc tu es d'accord, enfin tu es pas d'accord avec Éric Brunet qui tout à l'heure trouvait, et d'ailleurs beaucoup d'auditeurs et de tweetos ont la même idée et trouvent un peu scandaleux qu'on ait supprimé le final de cette étape. On va pouvoir en parler tout au long de l'après-midi.
Que l'on monte à vélo, que ces gens aillent à vélo là-haut. Et on va voir s'ils sont contre. C'était injouable, impraticable aujourd'hui.
Ouais,
on a eu des images de là-haut. Les gens ne peuvent même plus avancer sur leur vélo. Mon papa, qui est un camping-cariste toute l'année, qui vient sur le tour d'habitude, a quelques potes là-haut et ils disent que c'était incroyable. Cette nuit, ça a soufflé. Ils ont même eu peur que le camping-car bouge. Non, c'est une très bonne décision, très très bonne décision.
Bon, Cyril Guimard n'est pas d'accord avec nous.
Par conviction, il est contre nous.
Cyril aimerait bien, de toute façon, revenir à l'époque de Gene Christophe, lorsque les coureurs cyclistes devaient réparer leur fourche tout seuls, descendre des kilomètres à pied, évidemment.
Il l'a connu.
J'aimerais bien, j'aurais un avantage sur tout le monde, c'est que je sais souder.
Oui.
Ben oui.
Oui, c'est ça.
Et oui, ayant travaillé dans la construction navale, j'ai appris à souder.
Très bien. Bon, en tous les cas, pour toi, c'est pas scandaleux, mais tu penses que la... Je t'entendais tout à l'heure chez Éric Brunet nous dire que la décision a été prise un peu trop tôt. Mais tu le disais également, avec le barnum du Tour de France, c'est difficile de prendre une décision en cours d'étape et de tout annuler, de redescendre à partir de 15h. C'était pas possible, c'était pas jouable aujourd'hui.
Le problème, c'est que vous allez finir par me faire dire ce que vous avez envie que je dise.
Non, c'est-à-dire
que vous n'osez pas dire. Non.
Ça veut dire que t'as vraiment pas de personnalité, Cyril. Parce que si tu changes d'avis en cours d'étape.
Mais ça ne me gêne pas. Hein. Ça ne me gêne pas.
Non, mais c'est...
Non, ce que je veux dire, c'est que. Vous savez, moi, j'ai vécu quelque chose que vous n'avez pas vécu.
Eugène Christophe, on n'a pas connu.
Non, c'est la façon dont Laurent Fignon a été volé sur le Tour d'Italie. Et ça m'est resté entre la gorge. On a supprimé le Stelvio sous prétexte qu'il y avait de la neige, or il n'y en avait pas. Et le parcours de remplacement par l'Aprica, on l'a supprimé aussi, on n'a fait qu'une étape de plat. C'est-à-dire que, de toute façon, le classement était fait. Alors, vous savez, quand vous vivez ce genre d'injustice, vous vous dites, allez, avant de prendre des décisions, il faut qu'elles soient validées. Et... Je dis que oui, je pense que c'est une bonne solution parce que on ne pouvait pas monter également pendant la nuit les moyens techniques au sommet. Donc il fallait prendre des décisions, mais peut-être les prendre juste au moment de l'arrivée. Je trouvais que c'était un peu rapide. On n'avait peut-être pas suffisamment d'éléments à ce moment-là. De toute façon, on n'y arrivera pas, donc on ne refera pas le débat. Mais quelque part, on fait pas l'étape qui était prévue et ça change tout.
Ouais, mais tu sais, Cyril, après, le fait de la prendre si vite, c'est aussi s'engager à ne pas changer les plans au dernier moment. Rappelle-toi, en Corse, alors rien à voir avec le climat, quand le bus est resté bloqué, on a changé les plans au dernier moment sur la première arrivée, et finalement, ça a été la catastrophe, puisque à 4 km de l'arrivée, c'était plus une ligne, mais un rond-point, il a fallu faire l'arrivée là, les coureurs, on a entendu que l'arrivée était là, ça a frotté, la moitié du peloton est tombé, pour finalement redécider plus tard, 5 minutes après, que l'arrivée était sur la ligne, et bel et bien sur la ligne. Donc il vaut mieux anticiper pour la sécurité des coureurs, pour tout le monde. Ça, c'est pas un drame. Alors c'est sûr que c'est plus le même Mont Ventoux, mais c'est quand même pas dramatique si on fait 6 km de moins. De toute façon, pour en revenir à la course, les coureurs attendent les derniers kilomètres, voire le dernier kilomètre pour attaquer. Donc c'est pas un problème si on monte moins longtemps. Quintana, il attaquera au pied aujourd'hui.
Voilà, c'est le fois à se réveiller un petit peu plus tôt, on l'espère en tous les cas. Alors vous savez que le monde de la montagne aujourd'hui a envie de donner son avis sur cette décision. Tout à l'heure, Adrien Théo, le descendeur français, me disait, mais franchement, est-ce que les auditeurs qui appellent ont-ils vraiment fait du vélo pour comprendre la situation d'aujourd'hui? Et puis là, figurez-vous qu'on est avec Simon Fourcade, notre biathlète de l'équipe de France. Bonjour Simon.
Bonjour.
Simon, originaire des Pyrénées et qui habite désormais dans les Alpes, donc qui connaît bien la montagne, le biathlon évidemment, et qui s'entraîne.
Et qui pratique le vélo. Voilà.
Et qui pratique le vélo évidemment, parce que pour être un bon biathlète, faut faire du vélo. Simon,
RMC, 14h-18h, Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Pour la 12e étape de cette grande boucle aujourd'hui, courue entre Montpellier et le Mont Ventoux, plus exactement le Chalet Reynard, puisque vous le savez, l'étape a été amputée des 6 derniers kilomètres. Il n'y aura donc pas 184 kilomètres au programme aujourd'hui, mais bien 178. Et nous sommes justement à 79 kilomètres de l'arrivée. Fred, on va faire un nouveau point complet sur la course, car il se passe beaucoup de choses avec une échappée au grand large.
Une échappée massive avec 13 coureurs à l'avant dans le Mistral aujourd'hui sur les routes des Bouches-du-Rhône notamment, puis du Vaucluse. On est parti de l'Hérault tout à l'heure avec la sortie de Montpellier. Elle était déjà vantée et là évidemment les coureurs ont franchi le delta du Rhône et c'est là que le Mistral souffle fort et explique, et cela explique l'amputation de la montée finale du Ventoux arrivée, on vous le rappelle, au Chalet Reynard après une grosse dizaine de kilomètres d'ascension. Le Chalet Reynard à 1400 mètres d'altitude, 13 coureurs à l'avant de la course à 79 km de la ligne d'arrivée. Il y a beaucoup de Hollandais et de Belges dans cette échappée, notamment Serge Pauwels, le grimpeur de l'équipe Dimension Data. Notez également la présence de son équipier érythréen Daniel Teklaimanot, le champion d'Allemagne André Greipel, sprinter de son état, tout comme Brian Cocard, Brian Cocard qui s'est peut-être glissé dans cette échappée pour aller prendre les points du maillot vert au sprint intermédiaire qui interviendra dans quelques kilomètres. Brian Cocard accompagne Sylvain Chavanel, son coéquipier de l'équipe Direct Energy. Troisième français dans ce groupe de 13, Cyril Lemoine. Attention au grimpeur Dani Navarro, l'espagnol, ou Chris Anker Sorensen, le norvégien de l'équipe Fortuneo Vital Concept. L'avance de ces 13 hommes est désormais de 16 minutes 30 à 3 km du sprint intermédiaire. 16 minutes 30, il vient de fondre et l'avance vient de diminuer de 2 minutes parce qu'effectivement, à l'avant du peloton maillot jaune, les Sky et les Etix Quickstep ont provoqué des bordures, des cassures. Principale victime de ces cassures, le maillot vert et vainqueur d'hier, Peter Sagan, ainsi que le maillot à pois, Thibaut Pinot. Encore pas dans un grand jour aujourd'hui dans cette journée de grand vent.
Alors, il a tout dit, il nous a tout dit, Fred, effectivement, pas mal de coureurs piégés. Bobby, sur le hashtag RMC Live, nous dit quel est l'intérêt pour Brian Cocard de se trouver dans une échappée qui finit par un col hors catégorie. Mon cher Jérôme, toi qui...
C'est Bobby Julich qui
c'est pas Bobby Julich, c'est un autre Bobby.
Quel intérêt, Frédéric l'a dit, il y a des points à prendre sur ce sprint intermédiaire pour le maillot vert. On est très loin pour Brian pour le moment de Cavendish, mais sait-on jamais, il reste quelques arrivées au sprint, et puis surtout, il a fait la course, il a rien à perdre, mais il a rien à gagner, mais il a rien à perdre non plus, d'être devant. Aujourd'hui, il y a des coureurs, on l'a dit, qui sont distancés déjà, très vite, très tôt, ils vont galérer derrière, ils vont se retrouver à 4-5 coureurs à tourner jusque au sommet du Mont Ventoux, donc autant être devant, profiter de l'accalmie d'une échappée pour bien tourner, pour bien s'entretenir, pour bien faire des efforts à l'avant. Et puis moi, si j'avais été à sa place, j'aurais fait pareil, parce que on est bien mieux à l'avant dans un groupe d'échappée à pas se battre et jouer des coups toute la journée que rester devant tranquillement. Donc c'est une bonne option. Après voilà, il est pas là-bas pour gagner, ça c'est sûr. De même que Greppel n'est pas devant pour gagner, mais de toute façon, quand on fait le bilan de cette échappée, peu de coureurs sont devant pour la gagne. Ils sont 3 ou 4 à pouvoir espérer s'imposer là-bas, au chalet Reynard. Pour Cocard, c'est un bon choix, et puis il est avec Chavanel. Chavanel va pouvoir passer un peu moins que les autres parce qu'il a un équipier devant, sait-on jamais. Chavanel, on sait jamais, il peut aussi nous faire une belle surprise. Rappelons qu'on est le 14 juillet aujourd'hui.
Exactement, et que ça fait un moment qu'un Français n'a plus remporté une étape le 14 juillet.
On a des Français devant, alors quand on en a pas, on se plaint, quand on en a, on se plaint.
Non, mais on se plaint pas, non, on se pose la question, quel est l'intérêt pour lui, parce qu'effectivement, il va pas aller chercher la victoire d'étape. Pourquoi on est devant quand on veut pas aller chercher la victoire d'étape? C'est pour aller chercher des points pour le maillot vert.
Et puis surtout,
même s'il est très loin, effectivement, de
quand il y a du vent comme ça, on est mieux devant.
Justement, le sprint intermédiaire, eh bien, ce sont les échappés qui passent à l'instant. Non, le sprint dans un kilomètre. Dans un kilomètre, exactement. On dira tout ça. L'écart, Cyril, qui a tendance à régresser depuis quelques minutes. Est-ce qu'il est rédhibitoire, cet écart? 16 minutes à 76 km de l'arrivée.
Un petit mot, excuse-moi Cyril, juste pour signaler qu'outre Peter Sagan et Thibaut Pinot largués dans le coup des bordures qui vient d'intervenir il y a quelques minutes, il y a également Warren Barguil qui est piégé à plus d'une minute du groupe maillot jaune maintenant. Warren Barguil qui était 15e du classement général ce matin, à 3 minutes du maillot jaune Christopher Froome. Il va falloir recoller très vite, et a priori ça pourrait être possible dans les kilomètres qui viennent, car c'est à nouveau plutôt calme à l'avant du peloton maillot jaune.
Alors que Brian Cocard et André Greipel se rapprochent des premières positions pour aller sans doute récupérer quelques tout petits points pour le classement par points, le maillot vert de ce Tour de France. On va peut-être vivre le sprint justement, Fred, vas-y.
Oui, passage au sprint intermédiaire dans 300 mètres, effectivement Brian Cocard qui vient se positionner en tête pour aller récupérer des points dans ce classement dominé, on vous le rappelle, largement par Peter Sagan qui a encore fait deuxième avant-hier et vainqueur hier. Un sprint apparemment,
il n'y aura pas de points pour Brian,
remporté s'il y en aura, mais des moins gros que ceux récoltés par le vainqueur. A priori c'est André Greipel, le champion d'Allemagne, également à la lutte avec Sagan pour le classement du maillot vert, qui est passé en tête dans ce sprint intermédiaire.
Alors Cyril, je te posais la question il y a quelques instants, écart rédhibitoire, 15 minutes 54 au dernier pointage entre les hommes de tête et le peloton maillot jaune.
Oui, logiquement, cette échappée arrivera au pied de...
Au pied non, mais là, je te demande pas au pied, je demande au chalet Reynard. Est-ce qu'on va trouver le vainqueur de cette étape dans ce groupe?
C'est ça la question. C'est pas au pied. Au pied, j'imagine qu'effectivement, ils vont arriver.
On peut expliquer qu'avant d'arriver en haut, faut arriver au pied. Donc, tout dépendra de l'écart qu'il y aura au pied. Donc, ça veut dire de la vitesse à laquelle le peloton va progresser, puisque derrière, eh bien, avec ce vent de côté qui ne l'est plus trop d'ailleurs, qui serait plutôt favorable, si la bagarre continue comme elle l'est actuellement, ils n'arriveront pas à conserver suffisamment d'avance au pied pour pouvoir quelques-uns survivre et pour pouvoir aller gagner l'étape. Si le peloton arrive à se relever, alors effectivement le vainqueur est à l'avant.
Ok, ben, nous verrons ça dans les minutes qui viennent, effectivement, et on espère que la grande bagarre débutera rapidement au pied de cette ascension du Mont Ventoux.
Et elle débute dès maintenant, hein, la grande bagarre. Les Ethics Quick-Step de Dan Martin sont relayés à l'avant du peloton maillot jaune par les Trek, les coureurs américains coéquipiers de Fabian Cancellara et Bauke Mollema, le hollandais. On étire à nouveau le peloton avec ce vent qui vient de la gauche. Ce sera dur pour Thibaut Pinot et Warren Barguil de réintégrer ce peloton maillot jaune.
On avait annoncé dans la chapée au départ, on avait annoncé Julien Alaphilippe qui était dans ce groupe et qui est reparti derrière. Alors, j'ai pas d'informations à savoir si ou problème mécanique ou tout simplement on a demandé à Julien de rester avec Dan Martin. Je ne sais pas pour le moment. Mais en tout cas, l'éthique et l'équipe éthique, ça a de grosses ambitions avec Dan Martin aujourd'hui puisque lui, pour le coup, il est plutôt content que l'ascension soit diminuée. On sait que Dan Martin sur les longs, très longs cols, il est un peu en difficulté souvent, même sur le haut. Et là, 9 km, ça peut lui permettre d'espérer quelque chose. C'est pour ça qu'on voit l'équipe éthique se rouler très fort à l'avant du peloton.
73 km 700, donc de l'arrivée de cette 12e étape tout à l'heure au Chalet Reynard à 6 km du sommet du Mont Ventoux. On vous le répète, on est le 14 juillet aujourd'hui, c'est fête nationale. Tout le monde a défilé ce matin sur les Champs-Élysées. On espère qu'un Français va défiler en tête tout à l'heure. Jérôme, est-ce que ça motive plus particulièrement les coureurs français lorsqu'on est un 14 juillet?
On est motivé sur tout le Tour de France de toute façon quand on est français, mais oui, il y a quelque chose en plus, les coureurs français le savent, on rentre dans l'histoire quand on gagne une étape du Tour, mais on rentre dans la légende quand on gagne le 14 juillet. Peu de Français l'ont réalisé, Vincent Barthaud l'a fait, Jalabert l'a fait, le dernier Français en date c'est David Moncoutier en 2005, donc ça commence à dater.
Digne-les-Bains via le Corobin.
Exact.
C'est ça.
C'est à Digne-les-Bains. Via le Corobin, je sais plus, mais en tout cas, c'était à Digne-les-Bains, j'y étais. Et oui, on est motivé encore un peu plus quand c'est le 14 juillet côté français. C'est une certitude.
Et on va l'écouter, justement, David Moncoutier, dernier vainqueur français, un 14 juillet, il y a de cela quelques années, en direction de Digne. David Moncoutier.
Ouais, c'est particulier. Je pense que c'est une date, évidemment, facile à retenir pour le public, même pour les médias. On en parle beaucoup. Et ce jour-là, c'est vrai que de gagner, en plus c'était une échappée en solitaire, une étape de moyenne montagne, et on m'en parle encore, donc je suis content d'avoir gagné cette date-là.
Voilà David Moncoutier, effectivement, mon coucou pour les intimes. Qu'est-ce qu'il y a, Jérôme, tu
voulais... J'ai roulé avec David hier, on a discuté de cette victoire et de cette histoire, cette légende, puisqu'il est le dernier, et David est un supporter des Français sur ce tour, mais je peux vous dire qu'il serait quand même assez content que ce record quelque part, cette dernière victoire française au 14 juillet lui appartienne encore ce soir. Il y tient beaucoup à cette victoire.
Eh oui, ça reste évidemment. Et je parlais tout à l'heure avec Jean-François Bernard qui lui est le dernier vainqueur français au sommet du Ventoux, et qui lui dit il y en aura que 9, il n'y en aura pas de 10e aujourd'hui, finalement je suis pas plus mécontent. on est accroché comme ça à ces heures de gloire de sa carrière, Cyril. Non, ça reste évidemment des moments mythiques, et quand on est doublé par quelqu'un ou que le nom régresse dans les palmarès, ça fait toujours un coup, ça file un coup de vieux, non?
Ça file obligatoirement un coup de vieux, mais quand vous demandez, alors peut-être à l'exception de Moncoutier, à tous les coureurs si leur record ou si leur dernier exploit venait à être battu. Mais c'est normal, c'est le sport.
Oui, on te dit ça, oui.
C'est ce qu'on dit.
Une fois que c'est fait, oui.
Mais même avant, les records sont faits pour être battus. Sauf que t'as pas envie que ton corps soit battu.
Jean-François Bernard, vainqueur évidemment d'un contre-la-montre sur les pentes du Mont Ventoux, c'était en 1987, qui n'est pas le dernier vainqueur français au Ventoux. Hein.
Non, il y a eu Virenque.
En 2002, absolument.
Effectivement, il y a eu mais je parlais de il y a eu que 9 vainqueurs au Ventoux, donc il n'y en aura pas un 10e aujourd'hui. C'est pas le dernier. C'est David Moncoutier, dernier vainqueur français un 14 juillet. C'était pas les mêmes choses. Allez, on va revenir sur l'écart qui a tendance à régresser, hein, Fred.
Et pour cause,
une minute quasiment tous les 3-4 kilomètres.
Et pour cause, puisqu'effectivement, on vous le rappelle, à l'avant du peloton maillot jaune qui navigue à 15 minutes maintenant de la tête de course, les Etix Quickstep emmenés par la machine à rouler Tony Martin, le multiple champion du monde du contre-la-montre, eh bien, se met en file indienne ce peloton et revient progressivement sur la tête de course. Mais cette échappée de 13 coureurs a une telle marge, elle est tellement confortable cette marge, qu'a priori la gagne, comme disent les coureurs cyclistes, se trouve dans l'échappée, même si eh bien tout est possible avec cette ascension du Ventoux qui présente des pentes moyennes à 10% de déclivité. Peut-être que les grimpeurs parviendront à boucher l'écart. Ça roule toujours très très fort à l'avant du peloton.
Sévère, hein.
Les Etix Quickstep sont relayés à l'avant par les maillots blancs et noirs de la formation Trek Segafredo, des coureurs habitués aux bordures. En troisième rideau, on aperçoit les maillots rouges et noirs de la formation BMC. Cette fois, Nairo Quintana est très bien encadré, très bien épaulé par ses coureurs de la Movistar. Les Astana en cinquième rideau et les Sky un peu plus loin, sixième équipe présente dans ce train d'enfer, parce que ça va très très vite au sein du peloton. L'écart qui continue de fondre évidemment sous le soleil des Bouches-du-Rhône.
Est-ce que ça les arrange, Cyril, les coureurs de la formation Sky, que d'autres aient décidé de visser en tête de peloton, ou est-ce que ça fatigue les organismes avant d'attaquer la montée tout à l'heure du Ventoux?
Pour l'instant, il est clair que ça va user tout le monde. Si ça roule vite, quoi qu'il arrive, à un moment ou à un autre, on va être obligé de manger du vent. On mange moins de vent, je le disais déjà hier, on mange moins de vent quand on est dans la première bordure montante et descendante, parce que là, on est bien organisé. Derrière, eh bien, on se bat toujours un petit peu et on fait beaucoup plus d'efforts. Donc, oui, on l'a vu hier, d'ailleurs, à certains moments, c'était carrément l'équipe de Froome qui venait en tête, justement pour essayer de faire moins d'efforts. Et puis l'équipe Team Cof, et à l'arrivée d'ailleurs, ils en ont tiré les bénéfices.
On va revenir justement sur l'étape d'hier dans quelques instants dans l'intégral tour. Nous sommes donc à 70 km de l'arrivée. Tout à l'heure, Rochelle et Renard dans l'ascension du Mont Ventoux. 14 minutes 27 d'avance pour les hommes de tête. Leurs poursuivants sont à 6 minutes 10. Effectivement, le peloton maillot jaune à 14 minutes 25. Mais il n'y a pas grand monde, il n'y a plus grand monde, Jérôme, hein, dans le peloton maillot jaune. Hein.
Non, peloton maillot jaune très très diminué. Hein, une 45-50 coureurs maximum, ça a vraiment bien pété dans ce peloton. À la faute de qui? À la faute de l'équipe Etix notamment, et de l'équipe Trek Segafredo, surtout à cause du vent qui souffle encore très fort aujourd'hui.
Parfait, messieurs, on revient dans quelques instants. Messieurs, dames, hein, vous qui nous écoutez évidemment sur la route du Tour, il est 14h43, vous êtes sur RMC, et tout à l'heure, tout ce beau monde va escalader le Ventoux et s'arrêtera au Chalet Reynard. Mais la bagarre, soyez-en sûr, sera belle tout de même. À tout de suite.
RMC Intégral Tour. RMC, 14h-18h, Intégral Tour. Christophe Cessieux.
L'intégral Tour de France pour la 12e étape de cette grande boucle aujourd'hui entre Montpellier et le Mont Ventoux, plus exactement le Chalet Reynard, 6 km en dessous du sommet du géant de Provence. Nous sommes à 67 km de l'arrivée, et l'écart qui continue de descendre entre les hommes de tête échappés depuis quasiment le départ de cette étape et le peloton maillot jaune qui vise sévère et qui revient petit à petit, même si l'écart demeure quand même assez important, Fred, il faut bien le dire. Le top course.
Avec 67 km à parcourir, effectivement, la tête de course qui, comme un groupe de contre-attaquants dont on mentionnera la présence dans quelques instants, sort de la zone de ravitaillement. On est désormais sur les routes du Vaucluse, en route pour Bédouin, le pied du mythique Mont Ventoux. Un Mont Ventoux qui, on vous le rappelle, sera escaladé en partie jusqu'au Chalet Reynard. La faute à un Mistral qui souffle trop fort pour aller escalader le Ventoux dans son intégralité. Le Mistral qui cause des cassures dans le peloton qui se met dans une forme très caractéristique, en forme d'éventail, et ce sont toujours les coéquipiers de Dan Martin, l'Irlandais, les Etix Quickstep qui tournent et qui cette fois sont relayés par des coureurs de l'équipe Trek, semble-t-il. Notons les coureurs piégés aujourd'hui dans ce coup de Trafalgar causé par le Mistral. Thibaut Pinot, le porteur du maillot à pois, Peter Sagan Sagan, vainqueur de l'étape hier à Montpellier et grand bonhomme depuis le départ de ce Tour de France, mais aussi Warren Barguil, le troisième français au classement général, qui était 15e ce matin à 3 minutes de Christopher Froome. Barguil qui peut perdre gros aujourd'hui si ça ne se relève pas dans ce peloton. 66 km à parcourir, l'avance des 13 hommes de tête est de 13 minutes 40. 13 hommes de tête dont les Français Coquard, Chavanel et Cyril Lemoine.
13 minutes 40, ça descend Jérôme. Bon, même si évidemment ça reste encore important, mais le peloton s'est semble-t-il réveillé quand même depuis quelques minutes sur les routes du Tour et n'a peut-être pas envie de laisser échapper la victoire d'étape. Étape mythique, on le disait, même si évidemment on n'arrive pas tout en haut du Ventoux, mais ce sont quand même des lignes importantes dans un palmarès quand on gagne au Ventoux, même pour un grand champion.
Bien sûr, on a tous envie de s'imposer au Ventoux quand on est un grand champion et encore plus sur le Tour de France. Et c'est pour ça aussi que derrière on a réagi. On a réagi aussi pour essayer de mettre en difficulté quelques adversaires qui seraient éventuellement mal placés. Mais là, ils sont bien, bel et bien lancés. Et moi, j'estime, oui, au moins, il faudra au moins 5 minutes, voire 6 minutes aux échappés pour essayer de l'emporter. Parce que si ça revient très vite, la bagarre va être vite lancée au pied. Et il faut au moins cet avantage-là pour espérer la victoire d'étape pour les échappés du jour, bien qu'il y ait dans ce groupe-là de très bons grimpeurs, à l'image de Serge Powels, de Daniel Tecklemanot et autres. Il va falloir, oui, continuer à bien s'entraider, se relayer devant, parce que derrière on est lancé à très très vive allure. Et en plus on voit à l'avant du peloton un relais des équipes qui reviennent se replacer. Etix, on voit Cannondale, on voit la Movistar, on a vu à l'instant l'équipe AG2R la mondiale de Romain Bardet, on a vu la BMC. Donc ce sont des équipes qui ont encore 4-5 équipiers, donc ça va rouler très vite, et ça jusqu'au pied du Ventoux. Donc faut pas se regarder devant et faut continuer à bien se relayer.
D'autant qu'au pied du Ventoux, Cyril, aujourd'hui la bagarre devrait commencer. Elle ne commence pas obligatoirement au pied du Ventoux parce que l'ascension est souvent très longue, mais là avec 6 km de moins, certains ont intérêt à attaquer dès le pied, hein.
La course va être totalement différente, puisque lorsqu'on arrive en haut du Ventoux, on a un long parcours en sous-bois où ce sont les équipiers des leaders qui font le tempo pour essayer d'écrémer le groupe. Lorsqu'on arrive au chalet Reynard, en règle générale, il reste une quinzaine de coureurs et la course commence véritablement. Dans la mesure où on va arriver au chalet Reynard, eh bien, il faudra, c'est vrai, mettre en action les équipiers, on va dire les ceux qui vont lancer leur grimpeur pour le classement général. Donc, on sera obligé de partir au bout de 2 ou 3 kilomètres si on veut vraiment décanter ce classement général.
Fred, un petit ennui technique pour l'un des favoris de ce Tour de France.
L'un des outsiders, au moins, l'Italien Fabio Aru, ancien vainqueur de la Vuelta, deuxième d'un Tour d'Italie. Fabio Aru qui effectivement a dû changer de vélo dans la traversée du village de Molège, là où était jugé tout à l'heure le sprint intermédiaire. Fabio Aru qui a été dépanné par un équipier, il va falloir qu'il recolle vite, ça a été un changement express façon pit stop en Formule 1.
Allez, on va retrouver la moto. On a quelques problèmes aujourd'hui de liaison avec la moto RMC qui ne passe pas directement par notre car RMC. Georges qui se trouve donc à l'avant de la course avec les échappés. Georges.
Oui, au contact des hommes de tête à la sortie de Cavaillon. On est dans le département du Vaucluse depuis quelques kilomètres, avec une vue sur la gauche, sur le Mont Chauve, le Mont Ventoux, où se dirigent maintenant les coureurs. Il fait 25 degrés, là on est arrêté. On a l'échappée qui arrive juste derrière nous, que l'on va voir passer, le vent qui souffle déjà très fort. Alors, lorsqu'on n'est pas à l'abri, c'est difficile de maintenir la moto quand on est à l'arrêt. Le vent est en train de se lever clairement, et voilà les 13 coureurs qui sont en train de passer devant nous, emmenés par Cyril Lemoine notamment. On voit les coureurs, et notamment Sylvain Chavanel, Daniel Tecklemanot, qui profitent de ce moment de répit, on va dire, puisqu'ils sont à l'abri du vent là où ils se trouvent, pour s'alimenter, pour se réhydrater à nouveau, car il fait tout de même chaud là où nous nous trouvons pour l'instant, ici à la sortie de Cavaillon, derrière les 13 hommes de tête.
Merci Georges, on va te retrouver dans quelques instants pour la carte postale, une petite carte postale, une autre carte postale, une autre photo plus exactement. justement, Fred, sur le groupe pour l'instant des battus, dans lequel on trouve notamment Warren Barguil et Thibaut Pinot, deux des Français qu'on espérait à l'attaque aujourd'hui, mais qui là vont devoir chasser derrière les hommes de tête et derrière le peloton maillot jaune.
Oui, une chasse qui dure depuis maintenant une dizaine de kilomètres, depuis le moment où l'équipe Etix Quickstep a décidé de visser à plus de 75 kilomètres de l'arrivée. Etix Quickstep qui a provoqué une cassure au sein du groupe maillot jaune, et effectivement Thibaut Pinot, le porteur du maillot à pois, et Warren Barguil qui était 15e du général à seulement 3 minutes de Christopher Froome ce matin au départ de Montpellier, sont piégés. Du coup, les équipes FDJ et Giant Alpecin, les équipes respectivement de Pinot et Barguil, sont mises à contribution. Ce sont des équipiers des deux Français qui tentent de limiter la casse, car de revenir il n'en est pas question. Ça roule trop vite à l'avant du groupe maillot jaune pour permettre au groupe d'attarder avec Pinot et Barguil de revenir immédiatement. La tête de course à 62 km de l'arrivée qui continue de voir son avance fondre. On est dans la zone de ravitaillement en ce qui concerne le peloton maillot jaune, et le peloton compte une avance de 12 minutes 50 au dernier pointage.
La moto RMC, Georges Quienot en compagnie d'un directeur sportif à l'avant de la course.
Exactement, on se rapproche de la voiture Direct Energy avec Lilian Le Breton. Bonjour Lilian.
Bonjour.
Derrière Sylvain Chavanel et Brian Coquart, vous êtes dans une grosse échappée qui a une énorme avance aujourd'hui. Qu'est-ce qui est envisageable pour vous avec ce groupe de tête?
Déjà, dans un premier temps, je pense qu'il faut attendre un petit peu de voir l'évolution de la course derrière. 13 minutes, c'est effectivement une avance conséquente, mais ça peut aussi se réduire très facilement, parce qu'on va très prochainement prendre vent de face pour aller chercher les premières rampes et pour finir le Mont Ventoux. C'est conséquent et c'est peu à la fois, quoi.
C'est Sylvain Chavanel votre meilleure carte, parce qu'on imagine mal Brian Coquart sur les pentes du Ventoux.
Oui, c'est forcément Sylvain. Après, Brian avait pour mission de lancer Thomas Vauclair, Sylvain ou Romain. Romain dans l'échappée, il a réussi.
Merci beaucoup Lilian Le Breton, directeur sportif de cette formation Direct Energy, donc qui suit dans le groupe de 13 à l'avant Sylvain Chavanel et Brian Coquart. Oui, que l'on n'imagine pas non plus lever les bras tout là-haut au Chalet Reynard, à moins que Jérôme ait d'autres informations à nous donner.
Aucune information supplémentaire, et je suis assez d'accord avec toi, Georges.
J'en ai une.
Ce serait vraiment une surprise.
J'en ai une information supplémentaire pour tous les fans de Direct Energy, et ils sont nombreux sur le bord de la route.
C'est pas une bonne nouvelle.
Les Vendéens et autres, c'est pas une bonne nouvelle pour les couleurs de la formation de Jean-René Bernodeau. L'abandon d'Angelo Tulik, le coéquipier des deux échappés Coquart et Chavanel aujourd'hui. Angelo Tulik qui a donc quitté la route du Tour en cette 12e étape. Voilà, c'est le quotidien d'une équipe cycliste sur une course par étape, notamment des joies, des peines. La roue tourne dans le vélo comme ailleurs.
Compagnon de chambre Angelo et ami, très grand ami de Brian, en espérant que Angelo,
il travaille pour lui dans son train pour les semaines.
Il travaille pour lui et je sais pas ce qu'il a eu, s'il a été malade. Espérons que ce ne soit pas un virus qui soit transmis très vite dans l'équipe, parce que ça peut aller très vite souvent, surtout les fins de tour. Vous savez, quand l'un commence à tomber malade, on le met ce qu'on appelle en quarantaine, seul en chambre, quand on arrive à commencer à détecter les premiers symptômes, pour éviter justement que tous les coureurs, les uns après les autres, tombent malades.
Est-ce que la répétition des efforts, justement, Cyril Guimard, est-ce que la répétition des efforts fragilise les coureurs comme ça en cours de Tour de France?
Oui, obligatoirement, puisque au fil des jours on fait beaucoup d'efforts, donc l'organisme s'affaiblit, et donc par obligation ses propres défenses immunitaires. Et en plus, il y a quand même d'autres phénomènes qui interviennent. C'est que pratiquement tous les jours on va voir, suivant les températures, c'est pas trop le cas cette année d'ailleurs, c'est pour ça que on n'a pas trop de coureurs qui sont pris par ce genre de choses, mais on avale pratiquement entre 7 et 10 litres d'eau pendant l'étape. On se réhydrate énormément le soir. On est obligé également de manger des quantités plus importantes que si on était chez soi. Il faut bien refaire les réserves énergétiques. Donc l'athlète au fil des jours est fragilisé.
Eh ben écoutez, voilà qui est dit, hein. On est fragile quand on fait beaucoup trop d'efforts sur les routes.
Mais c'est
Tour
les
de
plus
France.
Forts qui gagnent.
Eh oui, allez, 60 km de l'arrivée, 12 minutes 40 d'avance entre les échappés et le peloton maillot jaune, toujours en direction vers le géant de Provence, le Mont Chauve, le Mont Ventoux, qu'ils vont escalader dans quelques minutes. Maintenant, à tout de suite, juste après les infos de 15h.
RMC, Intégral Tour.